amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard infâme, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors, pendant que la guerre conduite par l'armée israélienne continue en Iran et au Liban, les médias parlent moins aujourd'hui des populations palestiniennes qui continuent à souffrir et à mourir à Gaza. Omar Al-Soumi, militant d'Urgence Palestine, a publié en 2026 un livre intitulé « Enfants de Gaza ». Le 12 mai 2026, Omar Al-Soumi a été invité sur la chaîne YouTube intitulée « Mizan TV » pour présenter son livre. Je vous propose d'écouter cet entretien qui raconte comment un Palestinien né en France, dans le 19e arrondissement de Paris, militant formé aux sciences politiques et à la littérature, a renoué, au fil de son parcours, avec la langue arabe, avec l'islam, et a puisé sa force dans la cause palestinienne. Omar Al-Soumi, très tôt engagé dans des missions civiles, a organisé des camps d'été en Palestine. Il est à l'origine de Génération Palestine, organisation de jeunesse majeure dans la politisation de personnes non blanches dans les années 2000. Il a pris part ensuite au lancement de l'association BDS France en 2009, puis de Boussole Palestine en 2021 et 2022, et enfin d'Urgence Palestine. Alors donc, nous écoutons maintenant Omar Al-Soumi.
Je m'appelle Omar Al-Soumi, je suis né en France. Mon père est palestinien, ma mère yougoslave. Je suis militant pour la libération de mon peuple, de notre terre. Je fais partie fièrement du collectif Urgence Palestine et je navigue entre paysans, écrivains, différents projets et espaces de lutte. Et je suis aujourd'hui là notamment pour ce livre « Enfants de Palestine ».
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et dans quel état d'esprit l'avez-vous rédigé ?
C'est un livre qui a été écrit dans la nuit coloniale, dans ces moments angoissés du génocide du peuple palestinien à Gaza et dans le reste de la Palestine. J'ai commencé à écrire à l'invitation de Fatima Wasak, qui lançait cette collection aux éditions Les Liens qui Libèrent. La collection, c'est Écologie de la Libération. Et donc, j'ai commencé à écrire à l'été 2024, donc à une période où on est déjà à près d'un an de guerre génocidaire contre le peuple palestinien. Un moment, je dois le dire aussi, qui est pour moi un moment d'un relatif épuisement, après une année de lutte sur le bitume parisien, dans l'incertitude, des manifestations interdites, d'une répression extraordinairement violente. Et en même temps, j'ai tenté d'écrire depuis cet endroit qui est celui justement où on tient bon, celui de notre résistance, de sa longue histoire, de cet héritage accumulé au fil des générations. Et ce livre, c'est à la fois une opportunité et en fait une nécessité. Une opportunité qui m'est offerte par une maison d'édition qui décide de donner leur place à des analyses palestiniennes qu'on entend très peu en France. Et en même temps, une responsabilité parce que, palestinien, je suis porteur de cette longue histoire de lutte qui permet aussi de regarder avec plus de finesse et j'espère plus d'intelligence politique et stratégique les défis de notre génération qui est aujourd'hui encore aux prises avec ce régime colonial raciste auquel on souhaite mettre fin.
Vous êtes paysan, Omar Alsoumi. Qu'est-ce que ça change dans votre rapport à la terre de Palestine ?
En fait, paysan, je l'explique dans le livre, c'est à la fois littéral et finalement surtout symbolique. On peut dire d'une certaine façon que je suis plus paysan depuis le 7 octobre 2023. J'avais eu la chance de travailler pendant un peu plus d'un an aux côtés de mon épouse qui est maraîchère dans cette ferme agroécologique qui est un lieu de réenracinement pour nous, enfants de l'exil. Et en même temps, depuis le 7 octobre, j'ai été cantonné au bitume parisien à essayer de faire pousser ces graines de résistance, de conscience, de libération. Et finalement, je me rends compte que tout ce que j'ai appris en travaillant à la ferme, dans ces cycles du vivant, dans ces cycles des saisons, c'est quelque chose qui m'a renforcé aussi pour être un militant plus efficace, j'espère, dans la façon dont on gère ces phénomènes vivants, que sont aussi nos luttes, nos mouvements sociaux. Et j'ai tendance à croire aujourd'hui qu'on appréhende mieux nos luttes à partir aussi de ces méthodes qui sont empreintes de sagesse, qui sont celles de nos cultures paysannes, qui sont celles de nos peuples enracinés, et qui permettent de mieux construire des mouvements vivants et capables de triompher de la froideur stérile de la modernité occidentale et notamment du colonialisme sioniste.
En 2021, vous dites avoir profondément remis en question vos certitudes. Pouvez-vous nous raconter ce tournant et ce qui a motivé cette transformation ?
2021, c'est à la fois un tournant politique collectif, souvent ignoré, y compris dans les espaces de solidarité avec la Palestine, et un tournant très intime pour moi, celui de la crise de la quarantaine. Le tournant politique, c'est 2021, cette bataille qu'on a appelée celle de l'intifada de l'unité, Sheikh Jarrah, Saif al-Quds, un moment de mobilisation qui naît à Jérusalem, al-Quds, dans ces quartiers menacés de judaïsation par le colonialisme israélien et qui, en fait, se propage pour atteindre l'ensemble des segments de ce peuple fragmenté. Le peuple palestinien, partout, se soulève. Une intifada, une mobilisation populaire extraordinaire qui va soulever les masses populaires dans les camps de réfugiés de Jenin, de Nablus, Tulkarem, à Bethlehem, dans les villes, les universités, dans les villages, mais aussi à Gaza, qui rentre de toute sa force dans cette bataille pour la préservation du caractère historique de Jérusalem, Al-Quds, et aussi des mobilisations qui, à l'aide de Ramleh, Haifa, viennent en fait colorer à nouveau toute la carte de la Palestine historique, d'une présence palestinienne en lutte, qui affirme en fait la remise en cause de l'ordre colonial israélien. Et cette mobilisation extraordinaire, elle est souvent passée sous les radars des mobilisations, notamment en Occident, qui, en réalité, là, souvent ne s'intéressent à la Palestine que quand il y a des martyrs et des victimes palestiniennes. Mais quand le peuple palestinien vit comme ça des moments d'élan, de sursaut, de dignité, c'est moins bien documenté et moins bien transmis par les différentes organisations traditionnelles de la lutte en faveur d'une Palestine libre. L'aspect plus intime pour moi, 2021, c'est la crise de la quarantaine. On peut l'appeler comme ça, mais fondamentalement, dans nos sagesses, il y a des étapes, des caps à franchir. Et pour moi, c'est un moment où je renoue avec la profondeur de cet héritage, de ces liens, et notamment de la profondeur spirituelle de la religion musulmane, du message prophétique, du message de Mohammed alayhi salam, mais aussi de ces figures qui sont celles de ces enfants de Palestine, les plus illustres étant bien sûr Sayyidina Isa alayhi salam, sa mère bénie Mariam. Et renouer avec cet héritage, c'est aussi renouer avec la profondeur intérieure de nos êtres, de nos âmes, de nos consciences. Et c'est donc aussi des choix parfois un peu radicaux qu'il faut prendre pour se départir de ces injonctions qui sont faites par les catégories sociales, par les catégories de pensée qui sont imposées. Et pour moi, ça s'est traduit notamment par le fait de plonger à nouveau dans la richesse de ce patrimoine qui est le nôtre, et aussi de quitter mes activités salariées, mon travail de fonctionnaire, d'enseignant, de formateur et autres petits boulots finalement, pour me jeter pleinement dans ce travail paysan sur notre ferme. Et finalement un travail de recherche-action qui vient prolonger aussi d'autres étapes de ma vie, de mes engagements de jeunesse, dans la GUPS, dans Génération Palestine et d'autres cadres d'action militante. Donc c'est des moments de rupture et de continuité. La continuité, c'est cette recherche fondamentale du haq, de la juste voie pour nos peuples en lutte et nos personnes. Et les ruptures, c'est celle des logiciels, des méthodes, des grammaires avec lesquelles on se situe dans le réel.
Vous parliez à l'instant d'une des figures prophétiques de l'islam et des religions en général, c'est Sidna Issa, Jésus. Vous le décrivez comme l'enfant de Palestine le plus célèbre. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Omar al-Soumi?
Pour moi, au-delà des récits dominants, ce qui me semble important, c'est effectivement de renouer avec cette figure qui est vraiment le produit de la terre de Palestine, de cette accumulation qui a lieu dans cet endroit singulier du monde et de l'histoire de l'humanité. La terre de Palestine, à l'époque de la naissance de Sayyidina Isa, alayhi salam, c'est une terre qui est une sédimentation de culture, de sagesse, de vision du monde. Il me semble indispensable de décoloniser la figure de Jésus. La figure de Jésus, elle a servi en fait à une construction qui est fondamentalement, à mon sens, une construction impériale, qui est une sorte de kidnapping, de rapt de la figure de cet enfant de Palestine par l'Empire romain et par les États notamment de l'Europe, de l'Occident, au service d'un projet de domination, alors que fondamentalement, Sayyidina Issa, son message, c'est le message des prophètes, et c'est un message qui est celui de la libération de la conscience humaine, celui de la contestation même révolutionnaire de l'Empire et de ces tyrans qui prétendent gouverner nos vies et nos consciences. On pourrait aller beaucoup plus en profondeur, mais il me semble que l'enjeu fondamental, c'est celui déjà de retrouver cette figure libérée des clichés et des préjugés, et de la retrouver non seulement dans les textes, mais aussi quelque part en nous, dans nos âmes et dans nos consciences.
حتى بصوت المسجد وبع الكنيسة فهي من أملاكه وبع المؤذن في المزاد الأسود واطفئ ذبانات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذن يا سيدي لا تعتذر من قال أنك ظالم لا تنفعل من قال أنك معتدي حررت حتى السائمات غداة أن أعطيت أبراهم حقل محمد على مستعبدي وأردتني عبدا يباع ويشترى وأردتني يأسا يعيش بلادتي الكلام بلا فم لا تنذعر هذا الكلام بلا يدي أنا لو عصرت رغيف خبزك في يدي لرأيت منه دمي يسيل على يدي فهي من أملاكه وبع المؤذن في المزاد الأسود واطفئ ذبانات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذن يا سيدي
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire et vous venez d'entendre une composition musicale de la chanteuse palestinienne Rim Banna. Rim Banna était aussi une activiste. Elle est malheureusement décédée le 8 décembre 1966 à Nazareth. Et maintenant, nous reprenons l'entretien du militant d'urgence palestine Omar Al-Soumi, qui présente son livre « Enfants de Gaza » sur la chaîne YouTube Mizan TV.
Vous écrivez dans le livre, je cite, « Je ne suis pas qu'une victime, je suis un résistant. La réduction des colonisés à l'alternative morbide entre terroristes ou victimes est la condition du maintien du système colonial. » Omar Al-Soumi, comment dépasser cette assignation réductrice qui pèse sur les peuples colonisés ?
On est regardé alternativement, soit comme une menace ou une opportunité pour l'ordre dominant. Cette réduction à victime ou terroriste, c'est effectivement une façon de nous défaire totalement de notre capacité à choisir ce que nous sommes, ce que nous aspirons à être, individuellement et collectivement, en tant que peuple en lutte contre le colonialisme. Et donc, comment on fait concrètement ? Il me semble que c'est là aussi un double chemin, celui d'une lutte très matérielle qui exige beaucoup de précision tactique, une organisation collective efficace, une capacité à identifier les dangers de ce champ de mine dans lequel on avance. Et en même temps, c'est un chemin intérieur, c'est celui d'une lutte qui implique jusqu'au tréfonds de nos âmes pour ne plus être déterminé par le regard extérieur, qui soit celui de la masse des gens, mais aussi et singulièrement celui de ce système d'oppression qui est le colonialisme. Et donc retrouver notre identité profonde, retrouver cet endroit où on se découvre comme Ibad Allah, comme Abd Allah, comme personne qui est au-delà de son identité en tant que nationalité, identité de genre, identité professionnelle, toutes ces constructions sociales ne sont que des constructions très relatives finalement. Et donc l'endroit où on est authentiquement libre, c'est celui où nos âmes se libèrent, où la profondeur de nos consciences reprend toute sa force. Et ça, ça exige aussi pour nous, peuple arabe, porteur de la profondeur de la civilisation arabo-musulmane, pour nous palestiniens, palestiniennes, et ça exige aussi de connaître notre langue, de connaître notre patrimoine, et de trouver aussi les bonnes façons de traduire le souffle et l'héritage de la longue histoire de la résistance du peuple palestinien. Et cette résistance aujourd'hui, telle qu'elle est, elle est non seulement la ligne avancée de la lutte contre le fascisme, parce que le fascisme, c'est une longue histoire dont la généalogie, la genèse se trouve dans le colonialisme en réalité, si on suit Aimé Césaire. Donc Gaza aujourd'hui, c'est une ligne avancée de la lutte contre le fascisme, mais cette résistance réelle, elle a une langue, elle a une inspiration, elle a des textes sacrés. Et ne pas les connaître, ne pas s'y référer, c'est quelque part nous priver de la richesse de ce que ces résistances ont à nous apporter ici, dans un Occident qui est de plus en plus ouvertement tenté par le fascisme génocidaire. Et donc pour mieux lutter, on a besoin aussi de cet enracinement et de cette profondeur.
Vous affirmez que la Palestine nous libère. Que signifie cette idée pour vous personnellement et politiquement, poursuivant le propos ?
La Palestine nous libère, c'est un slogan qui s'est imposé, comme ça, de façon un peu spontanée, justement en 2021, quand on sentait que il y a certes les luttes de nos peuples, de nos organisations, mais il y a une force plus grande qui dicte la direction de nos recherches et de nos luttes de libération. Et cette force plus grande, elle est une force divine, sacrée, qui nous a fait des promesses, notamment celle que la Palestine, quelle que soit la volonté des tyrans qui prétendent diriger le monde, était promise à une libération. Dans cette libération qui nous est promise, se pose la question de la place que nous allons prendre. Si la Palestine se libère coûte que coûte et quoi qu'il advienne, se pose néanmoins la question de notre responsabilité. Qu'allons-nous faire ? Quelle place allons-nous prendre dans cette libération inéluctable ? Est-ce qu'on va être de celles et ceux qui ont peur de la répression, de celles et ceux qui ont peur des conséquences de la lutte dans ce chemin nécessaire et sacré, ou est-ce qu'on est de celles et ceux qui vont assumer leurs responsabilités et prendre leur part? Et donc c'est une question qui s'est posée de façon extrêmement angoissée pour un certain nombre d'entre nous, et en fait j'espère pour une majorité d'entre nous, au moment où on assistait au génocide du peuple palestinien, à la destruction de nos terres, à la destruction de tout ce qui permet la vie sur la terre de Palestine et même plus généralement dans la région, on s'est tous retrouvés confrontés à cette question. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et il y a à cet endroit aussi un point qui me semble absolument important de développer, de déjouer finalement de la stratégie coloniale. La stratégie coloniale, dans le déploiement de sa force génocidaire, vise toujours en fait à nous sidérer et à prendre le pouvoir sur nos âmes, sur nos consciences, à nous défaire de cette agentivité qui est la nôtre. Et donc un des enjeux très importants, c'est de ne jamais accepter l'idée que le colon serait tout puissant. Le tout puissant pour nous, il est à un autre endroit que celui de ces fanatiques militaires, colons, qui prétendent diriger nos vies, voire les supprimer. La vie, telle que nous l'entendons, dans ces messages qui nous viennent de Palestine, dans ces messages qui viennent de nos traditions, la vie authentique, elle est à un autre endroit que celui où ils peuvent nous atteindre, nous torturer, tuer nos enfants. Mais quoi qu'il arrive, il me semble ce qu'on a retenu de Gaza, de la dignité de Gaza, de la force de la Palestine, c'est que même face à la menace du génocide, on peut rester debout et vivant. Et c'est aussi la promesse qui nous est faite, c'est ce qu'on doit à nos martyrs. Nos martyrs sont vivants, même tués par ces fanatiques armés par les États-Unis et l'Europe, finalement, sur le chemin même du sacrifice de nos vies, nous restons vivants, parce que la vie authentique, c'est la vie de ces idées qui sont infiniment plus grandes, c'est la vie de cette force qui est infiniment plus grande que celle de ces colons et de ces milliardaires qui prétendent gouverner le monde, avec cette arrogance et cette corruption que nos messages et nos prophètes ont toujours sont toujours venus déjouer et affronter. Donc c'est cette conscience historique profonde aussi qui doit nous permettre d'être des résistants plutôt que des victimes dans ce moment terrible de l'histoire de notre humanité.
Omar El-Soumi, vous subissez vous-même la répression en France. Quelle est votre situation actuelle, vous et votre famille?
Je suis souvent tenté de déjouer un petit peu cette question, de mettre en pause tout ce qui concerne la répression dont on fait l'objet quand, encore une fois, aujourd'hui à Gaza, nos frères et sœurs font face à l'infamie de la famine imposée, orchestrée par l'armée israélienne et ses complices, qu'ils soient occidentaux ou arabes. C'est toujours aussi avec une humilité qu'on se dit résistant quand on pense au sacrifice extraordinaire des résistants palestiniens, palestiniennes qui aujourd'hui, dans les tunnels de Gaza, libanais, libanaises, dans les montagnes du sud Liban, arabes, musulmans, de ces différentes organisations de lutte qui se retrouvent dans des camps de la mort que sont ces prisons israéliennes, où sont systématiquement orchestrées la torture, le viol, les privations et les sévices les plus indicibles.
Et bientôt les peines de mort. Et bientôt les peines de mort.
Et donc voilà, c'est important de toujours rappeler que finalement on n'est que les prolongations infimes de cette force de résistance qui nous vient de Palestine et de cette répression génocidaire qui est orchestrée par Israël et le pouvoir impérialiste qui prétend s'imposer à nous. Et ce dont on fait l'objet ici, ce n'est que la répercussion, le prolongement, une onde en bout de course de cette violence qui s'abat sur nos peuples. Et donc oui, ici aussi, il y a un projet de d'extermination qui se joue avec un autre niveau de violence. Il s'agit de faire disparaître, d'anéantir notre présence en tant que sujet politique. Mais on voit bien en fait aussi se déverrouiller cet imaginaire génocidaire qui fait qu'aujourd'hui, les bourgeois corrompus qui prétendent gouverner ces pays sont en fait de plus en plus ouvertement inspirés par le régime israélien et par cette pratique ouverte aujourd'hui du génocide comme mode de gouvernance. Et ils le disent de façon de plus en plus ouverte. cette extrême droite qui est invitée par Netanyahou à célébrer cette nouvelle alliance en fait fasciste qui va de Tel Aviv à Washington en passant par Paris ou la Hongrie. Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen le disent de façon de plus en plus ouverte. Ils sont séduits par cette façon de gouverner les peuples arabes et musulmans qui est aujourd'hui défendue et mise en œuvre par Israël. Et donc il y a effectivement une répression et des menaces dont on fait l'objet. Je pense qu'il faut les affronter avec beaucoup de calme et de sérénité, de constance et même de reconnaissance parfois. Si on est ciblé, c'est peut-être, j'espère en tout cas, qu'on est capable de dire des vérités qui dérangent, qu'on est capable d'être constant dans cette prolongation du souffle de la résistance palestinienne et de la résistance de nos peuples en général. Et pour répondre à la question quand même, très concrètement, ils ont voulu dissoudre Urgence Palestine, mais Urgence Palestine est toujours là, grâce à la mobilisation populaire, grâce à la mobilisation politique
et
juridique qui a été la nôtre. 250 000 personnes qui ont signé cette pétition, des centaines d'organisations politiques, syndicales, associatives, qui ont dit non à la dissolution d'Urgence Palestine. On a fait des recours aux Nations Unies et on se tient prêt quoi qu'il arrive, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand la France est interpellée par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, la réponse officielle, c'est cette procédure de dissolution est toujours en cours. Donc on reste dans une menace existentielle et on reste dans une lutte pour la survie. Mais dans la lutte pour la survie, on peut devenir plus fort, on peut être plus organisé et finalement, c'était notre mot d'ordre depuis le début, la répression doit servir à nous rendre plus aiguisés, plus affûtés, plus efficaces dans notre capacité de mobilisation et c'est fort heureusement je pense ce qui est en train d'advenir aussi pour Urgence Palestine. On est dans un moment là où, déjà on peut le dire et le célébrer, le gouvernement qui prétendait dissoudre Urgence Palestine est aujourd'hui dans les poubelles de l'histoire. La bande à Bétaram, le ministre de l'Intérieur Retailleau, ont été contraints de démissionner. Et Urgence Palestine, elle, est toujours là, toujours plus forte et toujours plus déterminée à mener la lutte pour la libération de la Palestine, en soutien à la résistance palestinienne.
White dust in the air, a bitter taste. Another day, a life laid waste. Empty bowls and hollow eyes. Underneath these Gaza skies, whisper soft of what used to be, a stolen home, a broken key. Oh dear Palestine, your children weep, while shadows dignity. The sun beats down on crumbling stone. A mother sighs, a child alone. No bread to share, no milk to pour. Just echoes haunting every door. The world looks on.
Shadows long and hunger deep in God. sea of laughter, light, and running free. But walls close in and gates are shut. A future stolen, dreams are cut.
Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une autre composition musicale de la chanteuse palestinienne Rim Banna. Et nous reprenons maintenant l'entretien du militant d'urgence palestine Omar Al-Soumi, qui présente son livre « Enfants de Gaza » sur la chaîne YouTube Mizan TV et qui raconte comment le gouvernement français a décidé de dissoudre l'association Urgence Palestine qu'il avait créée.
Ils n'ont pas réussi à dissoudre Urgence Palestine. Ils sont venus me chercher chez moi, perquisition au mois de novembre dernier, 6h du mat, apologie du terrorisme. Donc ça, maintenant, on est des centaines à travers le pays à avoir fait l'objet de ces accusations fallacieuses et infamantes. Le mot même de terrorisme n'a aucune signification s'il n'est pas appliqué d'abord à l'armée génocidaire israélienne. Et donc, c'est évidemment des procès politiques par lesquels ils essayent de nous diffamer. On pense bien sûr à Rima Hassan, mais aussi aux centaines de personnes anonymes qui font l'objet de ces mesures qui peuvent vraiment ruiner des vies. Mais en même temps, je suis là et je peux en témoigner. En étant organisé collectivement, on peut tout à fait traverser aussi ces épreuves sans faire de concessions sur la ligne politique et continuer d'affronter l'arbitraire de cet État sans renoncer à lutter, parce qu'il souhaite nous faire peur, mais ce n'est certainement pas la peur de Macron ou de Retailleau qui doit guider notre engagement. La seule peur que nous avons, c'est de ne pas être fidèles au sacrifice de nos martyrs et à l'exigence de s'engager pleinement pour la justice et pour la libération. Et donc oui, la répression, elle continue, j'ai le désavoi,
ça fait combien procès de temps
à venir.
Ça fait un an et demi?
Là, ça fait 12 mois déjà. Et donc, c'est renouvelé pour encore 6 mois. Donc, et en fait, ça peut être prolongé indéfiniment. C'est vraiment des mesures totalement arbitraires. Ça montre le caractère hypocrite de ces prétendues démocraties libérales qui, en fait, appliquent un droit d'exception à l'endroit de nos corps et de nos êtres arabes et musulmans en lutte, et plus généralement de toutes celles et ceux qui s'engagent pour la justice. Il faut prendre la mesure de ce que ça implique, parce que c'est pas encore des mesures qui ont pénétrer le reste des mouvements sociaux. Le gel des avoirs aujourd'hui, il utilise le prétexte de la lutte antiterroriste, mais ils l'ont pas encore appliqué comme ils l'ont fait pour d'autres lois, pour dissoudre des organisations antifascistes ou écologistes, etc. Mais ça arrive. Donc je le dis non seulement pour nous, arabes, musulmans, qui luttons contre l'arbitraire, mais pour tout le mouvement social, pour toutes les organisations politiques qui se veulent dans l'opposition à ce gouvernement. Ce qui nous arrive, vous arrive. Et à nous d'être efficaces et solidaires. Ce que veut faire le gouvernement, c'est de nous diaboliser, de nous rendre infréquentables. Mais si on n'est pas solide et solidaire, effectivement, ce qui arrive aujourd'hui aux organisations palestiniennes, aux militants des luttes anticoloniales, ça va arriver à toutes les forces qui s'opposent à ce système, a fortiori si la Samahallah arrive un pouvoir encore plus radical dans son fascisme et son racisme. Et c'est quand même quelque chose qui nous pend au nez si on n'est pas très efficace et organisé.
Vous expliquez dans le livre que la répression impose des contraintes, mais peut aussi renforcer créativité et exigence. En quoi ces contraintes ont-elles transformé votre manière d'agir et de militer? Si vous pouvez nous donner quelques exemples concrets.
Innama al-usri yusra, c'est une promesse divine, c'est une loi cosmique. Et dans ces moments d'épreuve, il y a une opportunité. Notre responsabilité, c'est trouver l'endroit où elle réside. On peut se plaindre de la répression et des contraintes qu'il y a dans le contexte français notamment. Ce qu'on a expérimenté, nous, finalement, c'est que cette répression, elle nous a obligés à être beaucoup plus précis, beaucoup plus rigoureux dans notre expression. On peut pas dire tout et n'importe quoi, mais ça nous empêche pas de continuer à dire, j'espère, des paroles de vérité et de justice. Ce qu'on a traversé aussi, c'est une exigence d'être plus organisé dans le collectif. On voit bien que des individualités aussi compétentes, aussi volontaires qu'elles soient, sont beaucoup plus faciles à stopper par un pouvoir arbitraire. Et donc notre capacité à faire corps collectivement, c'est aussi une des forces qu'il s'agit de cultiver pour nous. Nos capacités organisationnelles, des formes de discipline militante qui étaient un peu oubliées, mais parce que on a été peut-être bercé dans une ère de réseaux sociaux où chacun fait un peu ce qu'il veut et dit ce qu'il veut et on s'organise souvent de façon un peu libérale finalement. Tout ça pour moi c'est des mythes dont il a fallu revenir. Et donc notre capacité à réhabiliter aussi tout cet héritage des luttes anticoloniales où il y a la discipline collective, où il y a la discipline organisationnelle, c'est aussi des choses qui me semblent être le fruit finalement positif de cette répression qui s'est abattue sur nous.
Les notions de résistance du peuple palestinien, d'antisionisme ou encore de décolonisation sont très débattues. Comment définissez-vous ces termes et comment répondez-vous aux critiques qu'ils suscitent dans le débat public?
Alors pour tout dire, j'aimerais que ces questions soient plus débattues et plus librement débattues. Il y a quand même déjà une réalité terrible, c'est qu'il y a une interdiction du débat dans l'espace public francophone et français en particulier. Parler de résistance palestinienne, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire en prenant mille pincettes parce que les accusations et poursuites pour apologie du terrorisme arrivent très facilement. De la même façon, parler de décoloniser la Palestine et donc de mettre fin au régime colonial sioniste, parler de la libération de la mer, de la Palestine, de la mer au Jourdain, pardon, c'est quelque chose qui potentiellement tombera sous le coup de la loi si après la loi Yadan, Aurore Berger poursuit ce projet gouvernemental de criminaliser notre expression. Et donc, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a beaucoup de débats nécessaires qui restent très largement empêchés, parce qu'en plus des lois, il y a aussi toutes ces censures, des salles municipales qui sont refusées à des associations locales, des universités qui refusent d'ouvrir l'espace du débat même académique, mais aussi du débat citoyen dans les universités. Et enfin, cette peur qui vient tétaniser de plus en plus de gens et une réalité aussi du paysage médiatique qui s'est terriblement contracté. J'en profite encore une fois pour saluer le travail que vous faites ici à Mizan de rendre possible ce débat. Et c'est un débat stratégique, c'est un débat intellectuel. Mais c'est surtout, je crois, un débat qui est une question de vie ou de mort, en fait, pour nous toutes et tous. On va continuer de l'avoir et continuer de le faire vivre. Je ne sais pas s'il faut répondre plus précisément à ces questions, mais oui, la résistance palestinienne est une résistance héroïque contre un colonialisme génocidaire et on doit tout faire pour la soutenir. Et j'affirme aujourd'hui, avec Urgence Palestine, que on a une responsabilité à soutenir les résistances anti-impérialistes au sens large aujourd'hui. À l'heure où les Israéliens et les Américains attaquent tous les peuples de la région, il faut saluer aussi la résistance anti-impérialiste en Iran, au Liban, et sortir aussi de ces clivages, de ces façons parfois caricaturales de regarder les uns comme étant les ennemis des autres. Il y a une recomposition à l'œuvre aujourd'hui des alliances nécessaires, des projets politiques qui doivent animer nos peuples dans cette région du monde. Et le message général, c'est celui de l'unité face à l'ennemi principal qu'est l'impérialisme et le colonialisme sioniste.
Parler de la notion aussi d'antisionisme qui est très décriée en Europe et en France. on assimile l'antisionisme à l'antisémitisme, alors que beaucoup de communautés juives au début du siècle étaient antisionistes. Même aujourd'hui, vous avez des rabbins antisionistes. Comment vous interprétez ces débats autour de ce terme-là?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout une volonté du pouvoir dominant d'imposer une doxa, une opinion autorisée, toutes les autres étant par défaut interdites. Et donc, il y a une criminalisation de nos pensées, il y a une criminalisation de nos expressions politiques et une interdiction du débat intellectuel. L'antisionisme, en fait, c'est une évidence pour les Palestiniens, parce que le sionisme a été partout un projet colonial, d'une violence qui s'est imposée par la force brutale des canons, du nettoyage ethnique. Le sionisme est la négation de l'existence même de notre peuple. Et donc, par notre présence, par notre affirmation de notre existence, nous sommes, par nature, par notre ADN, notre sang est antisioniste, notre existence sur Terre est antisioniste. Et au-delà du seul peuple palestinien, il est légitime et évident pour toutes celles et ceux qui récusent le colonialisme de s'opposer à ce projet qui est né, certes, dans la matrice d'une Europe coloniale, raciste, antisémite, qui, quelque part, a voulu, en fait, sur le dos du peuple palestinien, se débarrasser de ces minorités juives persécutées, au point que l'Europe a collaboré au génocide nazi très largement. Mais tout ça, c'est une histoire européenne, et en aucun cas, nous, Palestiniens, n'avons vocation à faire les frais de ces terribles tragédies historiques. Et donc, notre lutte antisioniste, elle est une lutte contre le racisme sous toutes ses formes, une lutte contre le colonialisme, elle est une lutte qui redessine justement les possibles des coexistences de nos différentes communautés. Et moi, je réponds souvent, en fait, aux personnes qui, depuis le confort de l'Occident, depuis ces histoires qui ont souvent été des histoires de collaboration avec les nazis, de participation au colonialisme, en gros, les Français qui me disent « Alors, qu'est-ce que vous allez faire une fois la Palestine libre ?» Ben, je leur réponds « Regardez notre mouvement, la richesse de notre lutte de libération, c'est qu'elle est dirigée par des Palestiniens en résistance, avec une infinie diversité dans nos rangs, de personnes qui, arabes, musulmanes, chrétiennes, juives, athées, se rassemblent derrière la bannière de la justice et de la libération qui est le drapeau palestinien. Et donc, je me plais à dire des fois que notre mouvement de libération, il est à l'image de la Palestine libre à laquelle on inspire. Notre antisionisme, c'est la plus belle proposition d'émancipation pour toutes celles et ceux qui aspirent vraiment à l'égalité et à la dignité sur cette terre.
In the shadow of the wall, where the dust clouds rise, a story of a people reflected in their eyes, broken homes and scattered dreams, a world of black and white. But a flicker of a spirit burns ever so bright. Through the bitter taste of sorrow and the chill of winter's night, a melody of laughter, a beacon in the fight. To find sleep, the scent of the otter in the air, a taste of what was lost, a memory of sunshine, whatever be the cost. From the bustling streets of Ramallah to the shores of the blue sea, a nation's souls whispering, we'll one day be free. Oh, the Palestine smile.
shining star.
Après cette composition musicale de la chanteuse palestinienne Rim Banna, nous reprenons l'entretien du militant d'urgence palestine Omar Al-Soumi, qui présente son livre « Enfants de Gaza » sur la chaîne YouTube Mizan TV et qui précise comment les Palestiniens résistent pour leur survie à Gaza.
Pour affronter l'injustice de l'ordre colonial, partout où ils résistent par tous les moyens nécessaires, y compris dans ce travail que font les journalistes, les soignants, les soignantes dans les hôpitaux, ces pères et mères de famille qui accueillent des orphelins. Tout ça, c'est la résistance palestinienne qui nous unit et qui nous oblige. Et donc, pour être plus efficace, effectivement, je pense qu'il faut venir puiser à cet endroit. Et c'est des messages qui nous viennent, encore une fois, de Gaza, mais aussi de ces prisons où les prisonniers nous disent. C'est dans la lecture du Coran, c'est dans ces litanies, c'est dans ces pratiques collectives que, malgré la torture, ils arrivent à tenir bon et à garder le cap de la lutte de libération.
Vous l'avez un peu abordé, vous avez fait un panorama des moyens de lutte. J'aimerais vous poser une question assez claire et concrète. Aujourd'hui, les populations en Europe qui voudraient aider le peuple palestinien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et qu'est-ce que fait Urgence Palestine en parallèle de ça?
Urgence Palestine, c'est un outil de lutte politique. Et donc, si on doit lutter par tous les moyens nécessaires, en Europe, en France, notre vision en tant que Palestiniens en lutte pour la libération de nos terres et de notre peuple, c'est qu'il faut aujourd'hui être les ambassadeurs, ambassadrices de la résistance palestinienne légitime, telle qu'elle est aujourd'hui sur le terrain. Et donc, notre travail politique, il exige d'abord de mobiliser, de faire passer notre message, d'organiser des manifestations, des événements, des conférences, des projections de films dans les universités, dans les quartiers, et donc d'occuper le terrain pour que notre vision politique, notre narration, notre histoire soit racontée par nous-mêmes, par le maximum de monde possible. Et ça, ça doit se traduire ensuite par une capacité à peser politiquement. Et donc peser politiquement, ça veut dire rappeler à l'ordre ceux qui ont du pouvoir, quelle qu'en soit la forme, quand il dévie de cette narration, de cette exigence de vérité et de justice qui est la nôtre. Quand la résistance du peuple palestinien est qualifiée de terroriste, on a un devoir d'intervention. Quand il y a génocide en totale impunité, nous avons un devoir d'intervention. Et ça, ça se traduit par exemple par les appels au boycott des organisations, entreprises et personnes complices du génocide. Et là, on parle bien sûr de Carrefour, mais aussi de ces salles de spectacle qui accueillent des promoteurs israéliens du génocide et de cette armée coloniale. Cette lutte, c'est aussi une lutte qui va se traduire en plus du boycott dans le domaine juridique. On est la première organisation qui a obtenu d'ouvrir une brèche dans ce mur d'impunité dont bénéficiaient les génocidaires sionistes. Par notre travail collectif, on a pu obtenir que Nelly Kupfer et d'autres promotrices de ce génocide se retrouvent non seulement avec des poursuites pour génocide ou complicité de génocide, mais aussi avec des perquisitions et des ouvertures d'enquête par le parquet national antiterroriste contre ces personnalités sionistes. C'est pas complètement anodin. On pourrait lister ainsi les victoires de notre mobilisation qui articule le populaire, le politique, le juridique et le médiatique, mais quand on dit par tous les moyens nécessaires, c'est notamment à cet endroit-là qu'on cite une autre action. Après, il y a aussi tout le travail qui est aussi extraordinairement important autour de l'information, autour de la propagation des contenus qui viennent de Palestine, qui sont forgés au péril de leur vie par les journalistes palestiniens et palestiniennes. Et encore une fois, il me semble important de se défaire de ces frontières qui ont été créées par les découpages coloniaux, Sykes-Picot. Quand je parle de la Palestine, en réalité, je parle d'une lutte contre le sionisme qui se joue aujourd'hui au Liban et dans toute la région. Enfin, pour ce qui est de nos moyens de lutte ici, Il y a aussi tous ces enjeux sur le travail social, éducatif, sur l'accueil des rescapés du génocide, sur ce travail nécessaire qui se fait aussi à l'échelle très très locale pour faire en sorte que les municipalités deviennent des alliés de la cause palestinienne plutôt que des participantes au génocide et au régime colonial. Donc tout ça en fait c'est une lutte qui se joue dans énormément de cadres. Il y a une très belle diversité aujourd'hui. On voit des organisations étudiantes, des organisations de quartier qui émergent. Et en même temps, on espère avoir créé une adresse collective, Urgence Palestine. C'est un endroit où on peut accumuler nos moyens, mettre en commun nos ressources de façon à être plus efficace et plus précis. Le but, c'est de mettre toute notre pression et toute notre force de façon à faire céder ces barrages qui nous empêche d'exprimer notre aspiration à la justice et à l'indépendance, et en même temps qui garantissent l'impunité aux colons et aux génocidaires. Et un des aspects essentiels de la lutte, c'est le moment où on arrivera à mettre fin à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est en France, en Europe, et à l'endroit qui, on peut parler longuement des complicités arabes, du soutien américain, mais en fait, l'Europe est un des aspects absolument essentiels de la bataille. Dans notre géographie politique, il faut savoir que l'Europe est l'arrière-pays d'Israël. C'est parce que les Israéliens jouent au foot en Europe, qu'ils viennent faire des études ici, que le tourisme leur est facilité sans visa. Personne ne demande aux frontières espagnoles ou françaises, aux Israéliens, où est-ce qu'ils habitent, dans une colonie, est-ce que, dans quelle unité ils ont servi, à quel moment. Il faut savoir que tous les Israéliens sont des réservistes de l'armée génocidaire. Et donc, si on arrive à défaire cette complicité de l'Europe, qui est aussi le premier marché pour les Israéliens, on aura réussi. Et donc, c'est alors 40 milliards pour les exportations israéliennes, mais en fait, c'est aussi derrière beaucoup de contrats indirects, c'est aussi ces exportations et importations d'armes, de technologies de surveillance. Et donc, c'est des dizaines de milliards cumulés pour des projets de recherche financés par le contribuable européen qui bénéficient à ces universités et autres laboratoires israéliens qui, aujourd'hui, sont les lieux où s'élaborent ces technologies et ces doctrines de la mort qui s'appliquent sur le champ de bataille, sur le corps des enfants et du peuple palestinien en général. Donc tout ça, effectivement, c'est l'endroit d'une complicité qu'il s'agit de déraciner. Finalement, la genèse du projet colonial sioniste, elle se trouve entre Paris, Londres et Berlin. Et c'est donc ici qu'on a aussi le pouvoir d'agir. Je le dis avec beaucoup de gravité aussi au moment où ces flottilles courageuses s'élancent encore une fois pour affronter le blocus de Gaza. Tout le monde se pose la question, où est la clé de Rafah? Comment faire en sorte que ces camions arrêtent de pourrir dans le désert alors que les gens sont affamés dans la bande de Gaza? Je pense aujourd'hui que la clé de Gaza, elle se trouve entre Paris et Bruxelles. Si on arrive à infliger ces sanctions à Israël, on aura sans doute la possibilité d'ouvrir les portes de Rafah et de faciliter la vie aujourd'hui de celles et ceux qui se battent pour notre dignité à toutes et tous à Gaza et dans le reste de la Palestine.
Vous qui avez étudié en tant qu'Urgence Palestine ce dossier précisément, on voit que c'est l'Allemagne qui bloque avec son veto, qui a des intérêts économiques en Israël, qui, il me semble, vend des armements, et qui, d'un point de vue historique, se sent aussi coupable par rapport au génocide qu'elle a commis envers les Juifs. Comment agir pour que l'Allemagne change de point de vue? Parce que c'est l'un des principaux veto qui bloque, qui perpétue cet accord.
Moi, on peut le qualifier d'accord de la honte. En tant qu'acteur politique, moi, je le fais sans problème. Aujourd'hui, l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël est une tâche dans l'histoire de l'Europe, mais c'est une tâche parmi d'autres. Je veux dire, on parle d'une Europe qui a colonisé, massacré et commis les pires exactions, y compris en soutenant aujourd'hui des dictatures corrompues partout, notamment dans nos pays. Cela étant dit, comment est-ce qu'on analyse l'évolution du rapport de force? Première chose très importante, il y avait un consensus européen à l'exception de la Hongrie. Orban est tombé et aujourd'hui, ce consensus minimaliste qui était accepté, y compris par les dirigeants allemands, c'était celui d'infliger des sanctions contre les colons et les organisations de colons en Cisjordanie. C'est bien sûr beaucoup moins que ce qu'on est en droit d'exiger. Mais ce verrou semble avoir maintenant pris fin, et donc on peut s'attendre à quelques mesurettes qui, en effet, sont insuffisantes, mais qui peuvent s'appliquer, y compris avec un accord des autorités allemandes. Il y a une autre chose très importante à savoir, c'est que si l'Union européenne, à cause d'un veto allemand ou autre, n'évolue pas dans sa position, les États ont la responsabilité d'agir. Et la France, par exemple, a mis le levier pour instaurer un contrôle sur l'entrée des touristes israéliens, pour mettre fin, par exemple, à ces accords qui permettent aux soldats franco-israéliens de participer impunément au génocide. Il y a des accords bilatéraux, notamment, par exemple, entre des universités françaises et israéliennes. On a attaqué, d'ailleurs, les universités françaises et le ministère de l'enseignement supérieur pour complicité de génocide, parce qu'ils ont refusé jusqu'à présent de rompre ces relations de partenariat.
Vous parliez des soldats israéliens, franco-israéliens. Il me semble qu'ils sont 6000, c'est ça, d'avoir participé au génocide?
Oui, les premiers chiffres qui étaient sortis, c'était 4000, et en fait, il semblerait qu'ils sont plutôt de l'ordre de 6000. Ça, c'est la masse des réservistes franco-israéliens qui ont participé ces deux dernières années aux opérations génocidaires de l'armée coloniale. Et donc, effectivement, toutes ces personnes tombent sous le coup de la loi, et a fortiori celles qui ont directement participé aux opérations de combat à Gaza, mais aussi au Liban, en Cisjordanie et ailleurs. Et donc ces criminels de guerre patentés, jusqu'à aujourd'hui, ont une relative impunité, mais je l'ai dit un peu plus tôt, cette brèche de l'impunité, elle s'est ouverte. À partir du moment où le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour crimes de génocide et complicité de génocide, il faut le dire, c'est une enquête contre X. Donc les procureurs et les autorités judiciaires qui travaillent sur ces dossiers ont vocation à s'intéresser au-delà de Nili Kupfer et de ses actions qui visaient à bloquer les camions d'aide arrivant à Gaza. En fait, il y a ces milliers de soldats français qui ont raison de s'inquiéter, parce qu'effectivement, la justice arrive à leur trousse. On va continuer de pousser, on doit continuer de s'organiser, et c'est la raison pour laquelle aussi Urgence Palestine lance une campagne de collecte de fonds, une souscription. Il faut donner de la force à Urgence Palestine et à toutes les organisations qui sont engagées sur ce plan. C'est aujourd'hui la façon pour nous de prendre notre part. On n'est pas impuissant. Ils essayent de construire notre impuissance, mais en réalité, on est en train de trouver les failles et les brèches qui nous permettent d'agir collectivement avec efficacité, en rejoignant les organisations, ou au minimum en leur donnant de la force et en propageant ces appels à nous soutenir.
Vous parliez des leviers dont disposerait l'État français pour changer de politique envers l'État israélien. Est-ce qu'il y en avait d'autres, de ceux que vous avez abordés?
En fait, il y a une infinité de leviers. On pourrait citer, par exemple, aussi toutes ces collaborations, ces jumelages qui existent entre des villes françaises et des villes israéliennes. Parmi ces accords de coopération, il y a ceux, par exemple, de Marseille avec Haïfa, qui est un port stratégique qui est absolument central dans ce projet géostratégique qui rassemble, après les accords d'Abraham, l'Arabie Saoudite, les Émirats et Israël, pour finalement abreuver l'Europe qui a soif d'hydrocarbures et de biens de consommation, de ces hydrocarbures qui viennent de notre partie du monde et de ces biens de consommation qui viennent notamment d'Asie. Et dans ce dispositif, le port de Haïfa a une place absolument centrale comme terminal portuaire, gazier et pour les biens de consommation, pour le transport de marchandises. Le port de Haïfa a vocation, avec cette connexion au port de Marseille, d'être une pièce absolument centrale de ce dispositif impérialiste et colonial. Et donc la ville de Marseille, par exemple, si elle mettait fin au jumelage avec Haïfa, ce serait un message extraordinairement fort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la gauche qui prétendument dirige à Marseille est totalement sourde aux arguments de notre mobilisation contre ce jumelage. Par ailleurs, on sait qu'il y a des intérêts évidents, notamment de Rodolphe Saadé, ce copain de Macron, qui est aujourd'hui un des magnats de la ville de Marseille et qui dirige cette compagnie maritime qui lui a permis aujourd'hui d'être une des plus grandes fortunes de ce pays.
Donc, c'est Alma CGM et il est aussi le président de BFM.
Exactement. Donc on voit aussi tous ces intérêts très concrets qui existent entre le complexe militaro-industriel israélien, des compagnies capitalistes.
Et pourtant, il est libanais.
En fait, être libanais ou palestinien n'empêche pas d'être un carnassier qui a soif de profit et qui est prêt, en réalité, à accepter le massacre de son peuple en échange de promesses de profit. Et donc, c'est assez terrible. Mais en réalité, il y a, on le voit dans notre région aujourd'hui, toute une série de ce qu'on appelle les classes compradors dans les théories marxistes, c'est-à-dire des intermédiaires du colonialisme qui tirent un intérêt direct de la domination coloniale et impériale. Et donc aujourd'hui, les pouvoirs arabes et les capitalistes arabes sont tentés, en fait, par ces promesses de profit en milliards qui sont faites dans la foulée des accords d'Abraham et dans la foulée de l'acceptation, en fait, de la domination israélo-américaine sur notre région. Et donc, aujourd'hui, c'est ces milliardaires-là, en fait, qui promeuvent la liquidation de nos résistances populaires contre l'impérialisme, parce que pour eux, résister ne rime à rien, et au contraire, collaborer, c'est des promesses de profit en milliards, même si ça veut dire renoncer à notre dignité, et même si ça veut dire se montrer complice du génocide des peuples de la région. Donc c'est terrible, mais c'est pas une nouveauté quand on se réfère à l'histoire longue de nos peuples. Il y a eu des intermédiaires en Afrique, dans l'esclavage et dans la traite triangulaire. Il y a eu des harkis et des régimes qui ont finalement tiré profit de la domination coloniale. Et c'est cette longue histoire, hélas, qui se continue. Mais ce qui continue aussi, c'est l'histoire de notre résistance et notre capacité à nourrir par notre conscience historique notre compréhension des phénomènes contemporains.
Vous venez d'entendre l'entretien que le militant d'urgence palestinienne Omar Al-Soumi a accordé à la chaîne YouTube Mizan TV à l'occasion de la sortie de son livre « Enfants de Gaza ». Alors bien sûr que nous remercions la chaîne Mizan TV d'avoir organisé un tel entretien. Omar Al-Soumi a raconté d'ailleurs comment le gouvernement français, qui fait tout pour continuer à soutenir le gouvernement israélien malgré les actions génocidaires de son armée à Gaza, en Cisjordanie et maintenant au Liban, et ce gouvernement qui fait tout aussi pour empêcher tout soutien au peuple palestinien en interdisant des manifestations de soutien et en dénonçant les membres de la flottille pour Gaza, le gouvernement donc français avait demandé l'interdiction de l'association Urgence Palestine créée par Omar El-Soumi. Et c'est d'ailleurs ce que raconte Omar El-Soumi sur la chaîne Orient 21, cette chaîne que vous connaissez bien, qui a été créée par Alain Gresh. Il le fait le 28 mars 2026. Et je vais vous faire entendre ce contenu de son article, qui est lu d'ailleurs par une correspondante d'Orient 21.
Omar Al-Soumi est cofondateur et porte-parole du collectif français Urgence Palestine sous le coup d'une menace de dissolution. Dans Enfants de Palestine, en librairie le 28 janvier, il raconte son histoire et celle de sa famille palestinienne, ses engagements, notamment pour l'écologie et pour les droits de son peuple. Dans l'extrait que publie Orient 21, il revient sur la répression qui frappe ceux qui luttent pour la libération de la Palestine. Le 6 mai 2026, il sera jugé pour apologie du terrorisme. Un vendredi soir de la fin mai 2025, en sortant du parking où j'ai garé ma Dacia familiale, ma carte bancaire est rejetée lorsque je veux régler. Je tente avec celle de mon conjoint, idem. Je consulte l'application du Crédit Agricole, elle est inaccessible. Je crois à un piratage de mon compte, mais cela n'explique pas que ma carte bancaire de la banque postale soit également rejetée. J'en déduis que c'est l'automate du parking qui est défaillant. Je me rends le lendemain à la première heure à un guichet du Crédit Agricole où le jeune employé m'informe qu'un problème est survenu sur mon compte. Le directeur de la banque m'indique qu'il s'agit d'un problème relevant du siège qui ne répondra pas avant le mardi suivant. Je vais à la banque postale où est ouvert notre compte joint. La guichetière se montre beaucoup plus directe. Elle me désigne son écran, sur lequel figure un gros encadré rouge. Votre client fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs. Aucune opération ne peut être effectuée. Un acharnement stupide et dérisoire. J'appelle mon avocate, qui effectue une recherche rapide et me confirme, un décret a été publié dans la nuit. Il stipule « Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Omar Somi, alias M. Omar Ael Soumi, né le 29 octobre 1981 dans le 14e arrondissement de Paris, 75, dirigeant du groupement de fait Urgence Palestine, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elle-même détenue ou contrôlée par M. Omar Somi, alias M. Omar Ael Soumi, ou agissant sciemment pour son compte ou sur instruction de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de 6 mois à compter de la publication du présent extrait au journal officiel de la République française. La mise à disposition, directe ou indirecte, ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou de toutes autres entités qu'elle contrôle, détient ou qui agissent sciemment pour son compte ou sur son instruction sont interdites pour une durée de 6 mois. Ouf, ce charabia est l'eau. Je le trouve drôle. Je suis un peu sonné, mais je prends ces nouvelles avec le sourire. Cet acharnement est stupide et dérisoire. Stupide, car rien ne nous fait peur depuis que nous avons vu, jour après jour, des enfants calcinés dans les bras de leurs parents en pleurs. Comment pourrions-nous encore avoir peur ? Dérisoire, car le gel des avoirs dont il est question concerne mon compte personnel au Crédit Agricole avec un montant créditeur de 0,40 euros et mon compte joint débiteur en cette fin de mois de père de famille nombreuse. Toutefois, dans la société où nous vivons, ne pas pouvoir utiliser de carte bancaire s'apparente à ne pas posséder de carte d'identité. Un casse-tête et un handicap lourd. Pour percevoir mon salaire, j'ai dû écrire à la Direction Générale du Trésor afin qu'elle en autorise la réception par ma banque. Tous les mouvements sur mon compte sont bloqués sauf ceux autorisés expressément par les agents du ministère de l'Économie et des Finances. Je suis comme sous curatelle. Les voies de recours juridiques sont vaines. La loi est très claire, le ministère de l'Intérieur peut sans jugement ni justification geler les avoirs de toute personne ou organisation. Motif, lutte antiterroriste. Le fait que je fasse partie des dirigeants d'urgence Palestine suffit à mobiliser une loi antiterroriste pour priver ma famille de ses moyens de subsistance et nous mettre sous des restrictions ultra sévères. Dès le début, le ministre de l'Intérieur a voulu inscrire la dissolution d'urgence Palestine dans la lutte contre ce qu'il appelle l'entrisme des frères musulmans. J'ai souvent travaillé avec des personnes proches ou issues de cette mouvance. Je les plains pour toute la violence qu'elles subissent. Torturées à mort en Égypte alors que leur mouvement a gagné les seules élections démocratiques du pays, étranglées en France malgré tous les compromis réalisés. Leurs réseaux sont en total retrait de la mobilisation actuelle, contrairement à 2009, quand nous avons connu les plus importantes manifestations pour la Palestine de l'histoire du pays. Et en l'occurrence, Urgence Palestine, qui accueille cordialement toutes les forces qui partagent sa plateforme politique et ses valeurs, ne compte pas dans ses rangs de représentants de cette tendance parmi d'autres de l'espace social et politique musulman. Ce sont les Émiratis qui, dans le monde arabe, sont devenus les fers de lance de la lutte contre les frères musulmans. On ne peut exclure que leur action ait influé sur le candidat potentiel Retailleau. Ce qui est sûr, c'est que le lobby pro-israélien Elneh est à l'initiative du meeting pour la République, la France contre l'islamisme, durant lequel, quelques semaines avant l'attentat islamophobe de la Grand Combe, le ministre de l'Intérieur a proclamé « Abat le voile !» tandis qu'une autre intervenante appelait à s'armer physiquement. Ces propos ne sont-ils pas une incitation à la haine et à la violence contre les musulmanes et les musulmans ? La réponse ne fait pour moi aucun doute. Quand la police débarque. 5 novembre 2025. Je me suis réveillée vers 5h30, c'est encore un peu tôt pour la prière de l'aube. J'ai regardé d'un œil endormi les nouvelles sur mon téléphone. Orhan Mamdani a gagné les élections à New York. Voilà une nouvelle qui fait plaisir. Je somnole encore quand des coups violents font trembler la maison familiale. Il est 6h09. J'ai tellement de chance, je suis plein de gratitude. J'ai une famille que j'aime, une épouse belle, forte et brillante, des enfants vifs et curieux. Nous habitons une maison avec un grand jardin à l'entrée du domaine naturel où nous avons notre ferme. Ma vie est celle d'un grand privilégié. Ce n'est pas parce que je m'ennuie ou que mon esprit est troublé que je milite contre le sionisme et le colonialisme pour la libération de la Palestine. C'est parce que c'est ainsi que je conçois la responsabilité de notre génération. Quand la police débarque à la maison, je ne ressens pas une once de peur, mais fais preuve d'une attention lucide autant que faire se peut. Protéger notre intimité, veiller à la sécurité de nos enfants, préserver la dignité de notre foyer. Nous étions préparés à ce risque. Nous en avions beaucoup parlé avec mon épouse et les enfants après les vagues répressives du printemps qui annonçaient l'intention du gouvernement de dissoudre Urgence Palestine. Les forces de l'ordre étaient déjà venues à 15, en mon absence, de nuit, terrorisant ma famille. C'était juste avant que mes comptes ne soient gelés. Perquisition, garde à vue, assombrissent depuis longtemps le quotidien de nos luttes antiracistes et anticoloniales et de plus en plus celui des luttes sociales et écologistes. Près de 500 personnes ont avant moi subi la violence d'être accusées d'apologie du terrorisme par le pouvoir français aligné sur son allié israélien. Dès le 10 octobre 2023, une circulaire du ministre de la Justice appelait les procureurs à une réponse pénale ferme et rapide à l'apologie du terrorisme qu'il définissait comme la tenue publique de propos vantant les attaques du 7 octobre 2023, en les présentant comme une légitime résistance à Israël. Nous étions prévenus. Nous avons passé ces 2 années de lutte à trouver les mots qui nous permettraient de défendre la légitimité de la résistance anticoloniale sans donner au gouvernement les moyens de nous écraser à bon compte. Notre collectif Urgence Palestine, fondé après le 7 octobre 2023, n'a pas pris position sur les événements des premiers jours suivant le début de cette bataille du déluge d'Al-Aqsa. Par-delà les actions militaires de ces jours pleins de brouillard de guerre et de propagande, subsiste une incompréhension entre l'espace occidental et l'espace arabe qu'il convient de lever. Ce qu'on appelle la bataille du déluge d'Al-Aqsa dans le monde arabe, c'est l'ensemble de cette période de 2 ans. Le déluge d'Al-Aqsa inclut ses longs mois de guerre génocidaire visant à détruire la résistance palestinienne et sa base sociale, cette lutte farouche de tout un peuple pour déjouer les plans de la machine de guerre coloniale et cette mobilisation sans frontières pour la libération de la Palestine. Dès les premiers instants de la perquisition, mon jeune fils a pu rejoindre mes filles à l'étage sans être trop exposé à la brutalité des allées et venues de cette brigade armée dans notre foyer. La perquisition n'a pas trop duré, mon téléphone a été saisi avant d'être mis sous scellé. Comme mon ordinateur, et avec lui la version originale du manuscrit de ce livre, balancé dans l'armoire du commissariat en attendant mon jugement. Ce matin nous offre un somptueux lever de soleil sur le chemin du cachot. Si on jauge une civilisation à l'aune de ses prisons, alors la France croupit dans un crépuscule délabré et puant. Nous sommes jusqu'à 5 dans une cellule qui compte 4 maigres matelas à même le béton et 3 couvertures usagées. Les toilettes débordent d'une nuée pestilentielle, collante et âcre. Ce commissariat est fait pour humilier, comme la répression vise à faire peur et douter. J'oscille entre gravité et détachement amusé. Ce n'est pas juste et c'est violent ce que ma famille, mes camarades et moi subissons. Cependant, il est dérisoire et ridicule que la France s'en prenne de façon aussi grossière à des personnes qui ne font que défendre le droit d'un peuple à vivre libre sur sa terre. Nous faisons face à une oppression inacceptable. Néanmoins, ce n'est rien par rapport au sacrifice des résistants qui sont nos références. Nous sommes en France. En Palestine occupée, dans les geôles coloniales, nos frères et sœurs détenus le sont sans procès, sans avocat, soumis à la torture, aux pires sévices et privations. Le Parlement israélien s'apprête à voter un texte de loi permettant d'infliger la peine de mort aux prisonniers palestiniens. Avant même cela, depuis le 7 octobre 2023, plus de 80 prisonniers sont tombés en martyrs en détention. Chacun a un nom, une histoire, une famille. C'est sans doute d'eux dont il faudrait parler ici. Toutefois, beaucoup ont besoin de figures d'identification plus proches pour se sentir concernés, alors j'essaie de faire le trait d'union entre toutes ces histoires. Nous sommes ici de petits résistants élevés par les grands résistants qui sont là-bas. En France, je suis avec des prévenus de droit commun. Des personnes qui, selon les cas, ont braqué, cambriolé, conduit en état d'ivresse, trafiqué de la cocaïne ou sont sans papier. Il y a une femme aussi, dans une cellule solo dans notre aile mixte. Elle a mis un coup de couteau à son compagnon violent. Je préfère citer Jésus. Une expertise psychiatrique a été exigée avant de m'envoyer au tribunal. Je ne suis pas fou, plutôt mature et raisonnable même, à en croire le médecin d'origine roumaine qui a fui la dictature quelques décennies avant d'être réquisitionné pour m'examiner. Il me parle de Gandhi et de Soescu. Je ne lui parle ni de Macron ni de Retailleau. Je préfère citer Jésus, Issa, le plus illustre des enfants de Palestine. Voilà une heure plutôt plaisante parmi celles passées au trou. Lors des auditions, j'ai choisi de garder le silence. Ce sont les conseils de mon avocate et le fruit de l'expérience accumulée de nos luttes. Quand l'officier de police judiciaire me montre la vidéo d'un extrait tronqué de mon discours lors d'une manifestation de novembre 2024, je n'ai rien à déclarer. J'aurais tant à dire, à expliquer, à détailler. Mais ce n'est pas le moment, pas le lieu, pas le cadre. Si nous étions à égalité dans un échange sincère, peut-être pourrais-je le lui faire comprendre. Mais ce n'est pas de lui ni de moi dont il est question ici. Nous sommes les acteurs du face-à-face inégal entre un État qui souhaite anéantir la résistance anticoloniale et ce peuple parmi les peuples, en lutte contre la tyrannie et pour la libération. Je m'amuse de cette situation. Je le regarde en souriant. C'est l'expression d'un enfant de Palestine plein de confiance, empli d'une paix joyeuse et enjouée. Il note à plusieurs reprises sur le procès-verbal de l'audition, le prévenu sourit, le prévenu fait un large sourire. C'est là encore un de ces échos entre notre infime résistance et la grandeur de notre héritage. L'officier de police ignore sans doute qu'en 1957, accusée de terrorisme, la résistante algérienne Jamila Bouhired, à la sentence du juge français qui lui annonce sa condamnation à mort, a répondu par un immense éclat de rire. « Je suis un tout petit, juché sur les épaules de géants. je ne signe pas le PV, considérant que la mention de ses sourires pourrait être prise pour un affront par le juge, un signe de cette désinvolture que les profs nous reprochaient au collège pour mieux nous punir. Il ne s'agit pas de cela, c'est infiniment plus profond et peut-être indicible. Au fond, nous savons ce qu'ils ne savent pas, nous avons ce qu'ils n'ont pas. Et nous serions heureux de tout partager si seulement ils renonçaient comme nous à vouloir prendre ce qui nous est confié, mais ne nous appartient pas. Je vais être jugé pour avoir fait l'apologie de la révolution décoloniale. Lors d'un discours sur un camion dans une manifestation en novembre 2024, j'ai parlé d'amour et de fraternité sans frontières, de notre exigence de droit et de justice. Dans cette manifestation et tant d'autres, j'ai dit que nous étions résolument les héritiers des luttes anticoloniales pour l'indépendance, de celles et ceux qui ont caché les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, résisté au nazisme et au fascisme. J'ai fait l'éloge de nos révolutions passées et à venir. En 2 années de mobilisation, j'ai parlé dans des dizaines d'événements, manifestations, conférences, débats, interviews. Je n'ai pas su consigner toutes ces phrases, ces arguments, ces faits, témoignages, analyses. Ce qui m'est reproché consiste en une phrase, détachée de tout contexte, suspendue entre les guillemets de l'accusation, entre des articles numéro XI alinéa lambda du code pénal. En effet, j'ai lancé. Est-ce qu'on est d'accord pour continuer d'être ce déluge d'Al-Aqsa, qui partout à travers le monde, inonde les rues, inonde les âmes, inonde les consciences, ce déluge qui déborde, ce déluge qui amène l'eau de la vie et qui fait pousser les graines de la résistance et de la libération. Cette phrase semble remplir les critères de ce que le ministère de la Justice français aurait à me reprocher. Pour ma part, je récuse le jugement d'un régime politique complice du génocide de mon peuple qui continue à livrer des armes et à offrir l'impunité aux criminels de guerre sionistes.
Après la lecture de cet article d'Omar El-Soumi, publié et lu sur le site d'Alain Grèche Orient 21, il me reste d'ailleurs à vous conseiller la lecture de son livre « Enfants de Gaza ». Ce livre publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et maintenant, nous terminons notre émission avec une dernière chanson de Rima Bana, artiste palestinienne. Ciao, ciao.
In the heart of the dust where the olive trees weep, a story of courage, a promise to keep. The whispers of children, a song on the breeze, a prayer for the morning, for a moment of ease. The rubble-strewn streets, a canvas of grey, but the spirit of Palestine will not fade away. From the camps of Rafah to Jenin's strong stand, we see your resilience. We're holding your hand. We are here for Gaza, world standing tall. We are here for Palestine, we'll answer your call. From the mountains we shout it, from the shores of the sea. For the land and its people, for the right to be free. We are here for Gaza, our voices will rise. A symphony of hope underneath weary skies. We are here for Palestine. Till justice prevails, we will not stand apart. The headlines may flicker, the world looks away, but the truth of your struggle is brighter than day. The fisherman's prayer on a sea turned to red, the baker who shares his last portion of bread, the medic who races through alleys of fear, wiping away a terrified tear. These aren't just stories, they're letters of light, a testament to your unwavering fight. We are here for Gaza, world standing tall. We are here for Palestine, we'll answer your call. From the mountains we shout it, from the shores of the sea. For the land and its people, for the right to be free. We are here for Gaza, our voices will rise. A symphony of hope underneath weary skies. We are here for Palestine, with every beat of our heart. Until justice prevails, we will not stand apart. They can build up their walls, they can rain down their fire, but they can't break the will. Songs of the free that the
Bonsoir, c'est Jazz Libre sur Radio Libertaire 89.4 FM Paris. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Yves au micro, c'est Jazz Libre, votre rendez-vous avec le jazz. Franck à la réalisation technique. Et n'oubliez pas de télécharger la souscription car nous avons besoin de votre soutien. Vous allez sur le site de la radio qui a été réparé, je le signale. Le site ne fonctionnait pas hier soir, cette nuit, mais ça a été remis en ordre. N'oubliez pas de consulter l'agenda sur lequel l'ensemble des émissions figurent. Vous pouvez réécouter les émissions pendant 12 mois à partir de la fin de leur diffusion sur le podcast. Vous allez le trouver sur la grille des programmes. N'oubliez pas de consulter également ma page Facebook Yves Jazz Libre, de temps en temps Instagram, mais vraiment très très rarement, je mets une photo ou deux. Je pense que j'en mettrai un petit peu cet été, des photos avec les invités. À propos d'invités, nous allons recevoir en deuxième partie d'émission Thierry Maillard, qui est le pianiste, compositeur, chef d'orchestre. Nous avons passé beaucoup de ses créations dans notre émission. Donc il vient pour un double album un peu particulier, il nous dira pourquoi, je vous laisserai l'écouter à ce propos. Alors, deux choses, je n'ai pas eu le temps, pour des raisons diverses et variées, d'emploi du temps, de faire un hommage à Dollar Brand qui nous a quittés avant-hier, et Alain Pinsol, le vibraphoniste dont j'avais passé un certain nombre de morceaux, il y a quelque temps déjà, qui également nous a quittés au mois de mai dernier, et donc je verrai cet été à faire une plage, il va y avoir beaucoup d'hommages, je vais continuer avec Sonny Rollins, et puis bon, Dollar Brand également, et Sonny Rollins. Alors, en attendant, nous allons dépiler un petit peu les nouveautés, puisque nous en avons. Oui, j'ai oublié de vous dire, il y a l'émission Femmes Libres qui va fêter ses 40 ans dans pas longtemps. Je pense que vous avez déjà l'information par d'autres émissions, je n'ai pas toutes les infos. Et puis, nous sommes également en train de préparer les 45 ans de la radio, qui devrait se passer au mois de novembre, donc on vous en dira plus à ce moment-là. Alors nous allons commencer par un duo d'un contrebassiste et d'un guitariste. Il s'agit de Ron Carter. Bon, Ron Carter, 89 ans, il a joué avec tout le monde, donc je ne vais pas vous faire l'article sur Ron Carter. C'est un des derniers piliers incontournables. D'ailleurs, je vous ai passé une vidéo où il jouait avec Emmett Cohen et George Coleman, 92 ans, donc c'était vraiment tous les deux là, les papis, mais il jouait une très belle version de My Funny Valentine. Donc, Yotam Silberstein, nous l'avons déjà passé, il fait partie du label Jojo Records, je vous en avais parlé à plusieurs reprises, et notamment avec Simon Belletli, qui lui-même aussi est guitariste, et qui est aussi, comment dire, à l'origine de ce label. Et ils sont tous les deux basés à New York, et ce sont de bons musiciens, mais